Actu SF, les podcasts.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Magic Mirror pour cette rencontre autour de l'architecture. Alors on verra si on élargit vraiment le sujet ou si on reste dans le domaine purement imaginaire. Nous sommes vraiment ravis d'accueillir Christelle Dabos. Ça faisait quelque temps qu'on avait envie qu'elle nous rejoigne du côté d'Épinal avec ce cycle de la passe miroir, parce que il suffit de voir combien vous êtes cet après-midi pour vous rendre compte que c'est un énorme succès et que c'est un cycle qui parle au lecteur. On va s'intéresser donc dans cette table ronde à des questions qui ne toucheront peut-être pas forcément directement aux intrigues et à l'histoire. C'est tant mieux parce que d'une certaine façon, on va éviter de vous spoiler les romans pour ceux qui ne les auraient pas encore lus. On va s'intéresser aussi avec Laurent Gapaillard, qui est l'illustrateur de ces ouvrages, à la manière dont ils ont travaillé pour que cet univers prenne forme à la fois sur les couvertures et puis sur les illustrations d'intérieur. Un univers en particulier urbain assez spécial, vous l'aurez constaté. Et on va voir un peu comment tout cela a pris forme. Alors, même si je ne me fais pas beaucoup d'illusions et que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent déjà le travail de Christelle Dabos, est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer un petit peu dans quel univers se passe ce cycle ?
Alors, l'univers, souvent on m'a posé la question, est-ce que c'est notre futur ? Est-ce que c'est notre Terre dans le futur ou notre Terre dans un passé extrêmement lointain ? Et en fait, c'est vraiment pour moi, un univers qui est une sorte d'écho déformé d'une autre. Et ce n'est pas notre monde, mais c'est une sorte de mélange de plein de temporalités différentes de notre monde actuel. Et voilà, donc c'est un monde complètement parallèle.
C'est un monde atomisé aussi.
Ah oui, littéralement. Atomisé, effectivement, qui a volé en éclats avec des arches éclatées. Enfin, moi, j'appelle ça des arches. Ça m'est venu d'un rêve que j'ai fait quand j'étais plus jeune. J'avais rêvé que la Lune avait éclaté en morceaux. Et je la voyais comme une sorte d'assiette de porcelaine éclatée dans le ciel. Et j'avais beaucoup. Cette image m'avait vraiment, vraiment marquée. Et je pense que c'est revenu au moment où ce monde a débarqué dans ma vie.
Donc, c'est une espèce de ceinture d'astéroïdes, finalement, d'une certaine manière. Enfin, c'est des petits bouts de rochers qui.
C'est des petits bouts de rochers flottants de taille plus ou moins variable. Et c'est un monde qui est complètement impossible d'un point de vue physicien. Dieu merci, j'espère qu'il n'y en a pas dans les experts.
Nous sommes dans la fantaisie.
Donc,
totalement.
Mais pour moi, c'est vraiment un univers onirique, en fait. Et c'est des petits bouts de terre qui sont en lévitation.
Qui ont chacun leur particularité. Et ça joue également sur ce qui va se passer dedans, puisque les climats changent, les sociétés y changent également de l'un à l'autre.
Je me suis du coup pas mal inspiré de notre monde à nous, mais toujours dans le mélange. Pour l'arche où vit le personnage principal Ophélie, je me suis beaucoup inspiré de la Belgique. Pour moi, c'est la Wallonie qui est le pays de mon cœur. C'est ma grande influence pour cette arche-ci. Et pour le pôle, paradoxalement, c'est la Côte d'Azur qui m'a beaucoup inspiré.
Vous êtes content. Attention, le changement climatique est en marche.
Voilà.
Ça donne donc deux univers qui se côtoient, puisqu'on va voyager de l'un à l'autre, et puis on va surtout s'installer du côté de l'hiver. Comme on le voit sur les couvertures, ce n'est pas parce que ce sont des petits rochers, ce n'est pas parce que ce sont des petits morceaux de terre qu'on n'y construit pas dessus, y compris des monuments et des bâtiments absolument gigantesque et tout à fait impressionnant.
Alors ça, je pense que c'est parce que j'aime beaucoup les contrastes. Et comme mon héroïne, elle est toute petite, j'aime beaucoup la mettre en scène dans des univers qui l'écrasent, en fait. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'elle est sous une nouvelle arche, c'est toujours écrasant, des lieux qui sont tout en verticalité.
En plus, avec ça, des tours interminables.
Et ça doit être un défi pour Laurent à chaque fois de se renouveler dans les illustrations, parce qu'il y a toujours cette verticalité que j'impose un petit peu, et il faut qu'il arrive à se renouveler.
Justement, Laurent, comment est-ce qu'on travaille sur un projet comme La Passe Miroir quand on est illustrateur
Ah oui, ça marche. Bon.
Ça fonctionne.
En fait, d'abord, c'est un éditeur qui nous met en relation. Donc, c'est les gens de Gallimard qui m'ont contacté. Donc, au début, je ne connaissais pas le projet. Mais en fait, moi, personnellement, je ne fais pas énormément d'illustrations. Je suis un peu. Je conçois des univers dans mon coin, on va dire. Et donc, quand j'ai fait une couve, là, en plus, dans le contexte, j'ai essayé de comprendre comment ça marchait. Donc, j'ai lu les livres, enfin, j'ai lu le premier tome. Et ça m'a permis, du coup, de voir bien quelles sont les problématiques de cet univers-là et d'essayer de le rendre en forme. Parce qu'en fait, y a plusieurs façons de faire des couvertures et ça dépend du temps qu'on a et des gens. Mais le mieux, c'est quand même de réussir à s'imprégner au maximum du texte, que ce soit quand on illustre ou quand on fait une couverture. Et d'en soutirer, d'essayer d'extraire une sorte de moelle et d'en faire quelque chose. C'est une transcription sous forme de ligne de ce qu'on reçoit sous forme de texte.
D'autant que cette architecture, si on en parle, c'est aussi parce qu'elle joue véritablement un rôle dans les histoires et dans l'intrigue. Donc ça veut dire aussi que vous, l'illustrateur, vous êtes astreint à certaines règles précises.
Par l'architecture ?
Oui, pour la forme générale et puis même pour le détail. On sait qu'il faut qu'il y ait des étages, on sait qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de choses.
Là, en fait, ce qui paraît assez clair, c'est que l'architecture de ces trucs-là, c'est des cerveaux géants, en fait. C'est des métaphores de hiérarchie sociale ou de pensées toutes plus tordues les unes que les autres. Donc, en fait, c'est pas du tout une contrainte, c'est juste l'expression d'un réel, enfin, d'un réel au sein d'un monde imaginaire, mais d'une réalité sociale. Donc en fait, c'est pas du tout une contrainte, c'est juste la transcription justement de. En fait, l'architecture est l'image des complots, des intrigues qui se passent dans ce monde-là. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça.
Ah, tu as sublimé les lieux que. En fait, quand j'écris, autant j'ai une vision assez précise des personnages, autant les lieux, c'est aussi flou et fluctuant que des rêves. J'ai beaucoup de mal, et c'est pour ça que j'ai tendance à pas mal décrire. C'est même pour moi arriver à me décrire à moi-même à quoi ressemblent les lieux. Et il reste toujours extrêmement flou. Et c'est en voyant à chaque fois les illustrations de Laurent que je me suis dit, voilà, là, ça s'impose comme je me dis, c'est une évidence, ça, c'est ça.
Donc, pas de cahier des charges particulier ? Il y a quand même quelques recommandations qui sont faites ?
En fait, ce qui se passe, c'est que l'éditeur... En fait, il y a des lieux à représenter qui sont quand même décrits dans le livre. Donc, c'est ça, le cahier des charges. Il y a une description sur la couverture, par exemple. Il faut représenter la forteresse volante ou... Alors, par exemple, pour le deuxième tome, ça a été plus complexe parce que, à partir du moment où j'avais fait la première, quand ils ont voulu faire la deuxième, pour le deuxième tome, ils me connaissaient déjà, donc ils m'ont contacté pour la couverture, alors que le texte était encore en écriture. Et du coup, certains éléments du texte n'étaient pas présents. Par exemple, donc l'allée dans le chemin dans la station balnéaire n'était pas encore définie dans le texte quand j'ai commencé à faire le dessin. Et on est parti sur la représentation d'un autre lieu, qui était une sorte de station balnéaire, mais là, virtuelle.
Mais tu es inspiré de la jetée promenade de Nice,
c'est
qui aujourd'hui est disparue, en fait. Mais c'est ça, c'est ce qui m'avait inspiré, ce lieu-là.
C'est ça, donc j'avais fait des croquis qui représentaient une jetée promenade victorienne, en quelque sorte un espèce de kiosque comme on trouve à Brighton ou des bâtiments victoriens avec des verrières partout. Et il se trouve que pour des raisons de composition, et puis ça a été arrêté pendant 6 mois ou quelque chose comme ça, et pour des raisons de comme le texte avançait, on est passé sur autre chose, on a représenté l'arrivée avec le train sur cette muraille gigantesque là. Donc voilà, il y a eu deux ébauches pour celle-là. À chaque fois, c'est différent, c'est des contraintes pratiques. Il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte, quoi.
Alors c'est intéressant parce que vous ne vous connaissiez pas finalement avant que le projet ne démarre. Est-ce qu'il y a une certaine complicité finalement qui s'est installée entre vous au fur et à mesure ?
Alors on s'est relativement peu rencontrés.
Oui.
Mais je pense que le courant est assez vite passé. Moi, je sais que lorsque j'ai vu les couvertures et ne serait-ce que déjà l'état d'esquisse, j'avais une certaine appréhension qu'il a été question de la couverture des livres. Et je me suis dit à quoi ça va ressembler. Et quand on m'a montré l'esquisse, mais j'ai eu un coup de foudre instantané. J'ai dit, est-ce que je peux contacter Laurent Gapaillard ? Parce que ça se faisait toujours par intermédiaire. Et je dis, il faut vraiment que je lui exprime ma gratitude éternelle. C'était littéralement le titre de mon email.
Oui, c'est super touchant, effectivement. Sur le moment, moi, j'essaie de faire de mon mieux, mais C'est vrai que dans les boulots d'illustration, quand on travaille, j'ai travaillé pas mal pour des jeux vidéo, des choses comme ça, on travaille pour des gens qu'on voit parfois jamais et qu'on finalement c'est très professionnel et il n'y a pas toujours forcément d'humain là-dedans, quoi. Et là, pour le coup, il y avait... Bah déjà, moi, je l'ai senti dans le texte. J'ai senti qu'il y avait une intelligence, une sensibilité. Et bon, du coup, c'est chouette de voir l'humain derrière, ouais, de créer un lien. Voilà, fin...
En fait, on s'est vraiment rencontrés. C'est à Saint-Malo, au Festival des Tonnants Voyageurs. Et voilà, on a fait pour la première fois des dédicaces communes côte à côte. Hein, et c'était un grand moment.
Ce qui est fascinant, c'est de voir que finalement, vous êtes donc étrangers l'un pour l'autre, d'une certaine manière, au moins au début du projet. Et que... ce sont deux imaginaires qui s'accordent avec vos parcours particuliers à l'un et à l'autre. Et que finalement, bah voilà, vous arrivez quand même à vous retrouver, alors que ça n'est pas une évidence que Laurent puisse proposer quelque chose qui corresponde véritablement à ce que vous faites, Christelle.
Ah bah là, une alchimie qui s'est opérée, effectivement.
Ouais, en fait, je pense que il y a plein de fois où ça n'arrive pas, et donc, bah, du coup, dans ces fois-là, on n'en parle pas. Voilà la chose. Et puis, bah, ça paraît étonnant quand ça arrive, mais là, c'est comme ça dans bien des choses, comme par exemple quand un savant ou un chercheur il trouve une solution à un problème qu'en nature on lui pine plein d'autres, ça échappe un peu aux gens, en fait. Il y a beaucoup, il y a un gros pourcentage de pertes pour plein de choses.
Christelle. On parle d'architecture, là, et forcément, ce qui influe aussi, c'est un peu, même si on est dans un univers imaginaire, même si on est dans un univers de fantasy, il y a quand même des références particulières qui peuvent toucher à des périodes historiques particulières. Et donc, forcément, ça influe aussi sur le travail entre une fantasy médiévale et une fantasy victorienne, comme le disait Laurent. On n'a forcément pas la même chose, on n'a forcément pas les mêmes éléments au départ.
Non, en effet, mais c'est... On va dire que, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien mélanger les époques. On va dire que l'époque dominante qui m'a le plus influencée en termes d'esthétisme, c'est vraiment la fin du 19e siècle, notre début du 20e siècle. Mais après, je vais mettre des éléments qui sont complètement anachroniques. Par exemple, pour le domaine d'Archibald de Clair de Lune, je me suis inspirée du château de Vaux-le-Vicomte de Nicolas Fouquet. Et c'est un clin d'œil que je faisais à mon papa, qui lui... voilà. Un historien et voilà, qui se passionne pour cette époque-là, le XVIIe siècle, pour qui voilà, le masque de fer, l'énigme du masque de fer, bah, c'est Nicolas Fouquet, l'intendant. Donc je lui ai fait un petit clin d'œil, voilà, et bah, j'avais regardé les plans du château de Vaux-le-Vicomte. Le truc, c'est qu'après, comme moi, je ne peux pas me contenter de ça, bah, j'ai après complètement déformé l'espace. Et voilà, c'est un domaine où l'espace en fait est complètement impossible. Il y a des salles qui se superposent les unes aux autres. Il y a des raccourcis avec les roses des vents qui fait que selon la porte qu'on emprunte, ça nous propulse à un autre endroit, à l'autre bout du domaine. Donc voilà. Après, il y a une base de réalité qui va bien inspirer, mais mon imagination éclate toujours ça. Au bout d'un moment, ça, faut que ça parte un petit peu dans tous les sens.
Alors vous le disiez tout à l'heure, il y a un élément important, c'est le personnage d'Ophélie qui se retrouve projetée finalement, presque malgré elle, dans ces univers-là. Elle vient plutôt au contraire d'une arche qui est assez modeste, assez raisonnable, on va dire,
plan architectural. Le point qu'on voit vraiment pour moi, c'est vraiment la petite Belgique avec les petites rues pavées, les petites maisons en briques. Et voilà, c'est tout simple. Hein, et effectivement, elle n'est pas du tout préparée aux espaces qui l'attendent. Je pense que vraiment le seul grand, enfin, espace notable sur Anima, c'est l'observatoire d'Artémis. Mais voilà, je crois que c'est...
En plus, elle est un peu rat de bibliothèque. Elle est plutôt, elle vit dans un univers relativement clos.
Ouais, oui, exactement.
Et là, elle va se retrouver amenée à devoir
être confrontée
vivre
à de grands espaces.
Exactement. À devoir apprivoiser tout cela, ce qui fait qu'elle se retrouve avec des difficultés supplémentaires, parce que déjà, elle a pas forcément super, super bien accueilli, il faut quand même le dire.
Non, effectivement, elle n'est pas très désirée.
Et en plus, il faut vraiment s'adapter à cet univers, qui en plus, parce qu'il y a ça également dont il faut parler, mais c'est un univers changeant, puisque dans cette arche polaire, ben, on essaye un peu de camoufler la réalité et de masquer un peu l'hiver.
Oui, alors, je joue beaucoup sur les illusions, effectivement, qui viennent, on va dire, sont vraiment des cache-misères, parce qu'au final, les lieux ont toujours l'air extrêmement beaux, mais ils sont sublimés par des illusions. En fait, si on regardait derrière les illusions, ce seraient des lieux qui seraient extrêmement ordinaires. Et il y a même une scène ainsi, la fameuse scène de la jetée promenade, on voit cet espace-là, et à un moment donné, l'illusion est mise à mal, et on voit qu'en fait, c'est juste un hangar. Quoi. Pendant une fraction de seconde, on s'aperçoit que c'est tout simplement un hangar. Donc, effectivement, c'est vraiment des caches-misères qu'on va mettre pour dire c'est beau, c'est un bel univers bien doré, mais en fait, ce sont des illusions.
Laurent, justement, sur cet aspect, parce qu'on le comprend bien, il y a une espèce de grandeur un peu déchue, un peu craquelée. C'est aussi voilà, quelque chose qu'il a fallu prendre en compte dans le travail. Sans forcément dessiner une ruine, hein, mais...
L'architecture, ça évoque ça assez rapidement parce que c'est des trucs qui durent, alors que ceux qui les ont faits, les bâtisseurs du lieu ont disparu depuis longtemps. Un lieu qui est le plus sidérant comme ça, c'est Jérusalem. Moi, j'y avais passé quelques années. Là, on vit dans un millefeuille historique où on se rappelle, en fait, la seule chose dont on se rappelle, c'est qu'on a oublié qui a fait tout ça, quoi. Il y a des dizaines de générations qui sont superposées et on a oublié leur nom. On ne peut plus savoir qui habitait. Les maisons, parfois, c'est des fondations. Il y a un carré avec des pierres et on devine des pièces. On ne sait plus à quoi ça servait, on ne sait plus qui vivait, on ne sait plus rien. C'est juste qu'il y avait des gens là. Mais la plupart du temps, quand on oublie, on a oublié qu'on a oublié. Et c'est juste, on est ramené sur une espèce de présent. Voilà. Et là, par contre, le vertige, il nous prend parce qu'on se rappelle qu'il y avait des gens. Et donc on se dit, mais nous, pareil, quoi. Donc voilà, ça, l'architecture produit ce vertige-là parce que ça laisse des traces, mais ça fait de nous une sorte de force géologique anonyme dans laquelle les individus se font malaxer et seul reste la force globale de tous les humains qui ont, par exemple, édifié une immense forteresse ou une ville ou un temple. Ou, voilà, donc c'est la mémoire et l'oubli, c'est... Les choses là se mélangent et les ruines, le côté déchu, l'oubli et la déchéance, ça va pas mal ensemble aussi, quoi.
Alors, je vois la couverture du premier tome parce qu'elle est quand même assez fascinante avec cette arche un peu en bouchon de carafe, on pourrait presque dire ça.
c'est vraiment ça.
Quand on voit ça, vous avez cité le mot fondation, par exemple. Là,
les fondations, il n'y en a pas.
C'est clairement. Mais quand on regarde ça, on se dit, mais qui a eu l'idée saugrenue d'aller construire un truc pareil, quoi? Et comment on a réussi à construire un truc pareil?
La mère Hildegarde. Et en fait, au pôle, les espaces architecturaux, vraiment tous ceux qui sont notables, c'est même pas... la personne qui a créé ça... C'est là. Donc la mère Hildegarde qui n'est même pas du pôle en fait. Elle vient d'une autre arche, Arcanter, dont le pouvoir familial, le don, c'est de pouvoir modeler l'espace. Et c'est elle qui a été du coup engagée pour travailler sur tous les gros chantiers du pôle.
J'irais bien finir tout en bas là. Moi, je ne sais pas s'il y a une possibilité de se loger par ici. Mais...
Tout en bas, oui.
Tout en bas, oui.
Pourquoi pas. Oui, mais bon, les bas-fonds de la citation, je ne les recommande pas.
Oui, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là que je n'avais pas envisagé. Ce sera un cycle en combien de volumes?
En 4 tomes.
En 4 tomes, donc le quatrième est encore à venir.
Voilà, et puis ce sera lui qui clôture cette série-là.
C'est l'occasion à chaque fois donc, de projeter votre héroïne dans des aventures... complexe, compliqué, hein, où elle va devoir...
Trop compliqué. Même l'auteur a du mal à suivre maintenant. Je suis dans le quatrième tome et j'ai vraiment l'image d'un plan Ikea où techniquement sur le papier, j'étais sûre que ça allait correspondre et je me retrouve avec une vis en trop ici où ça colle pas là. Et je me dis comment est-ce que je vais faire pour tout terminer à la fin et que tout se raccorde. Mais ça, d'une façon ou d'une autre, ça finit toujours par tenir debout. Donc,
La littérature, c'est aussi de l'architecture, quelque part. Hein.
Quelque part, oui.
Il y a aussi cet aspect-là qui joue. C'est une presque une anti-héroïne au départ, parce qu'elle a rien, a priori, d'un super-héros ou d'une aventurière professionnelle. Or, il va falloir qu'elle s'y mette malgré elle.
C'est ça qui est intéressant.
C'est un personnage qui s'est construit petit à petit également, qui évolue, qui...
Ah bah elle-même, c'est un personnage qui a subi plusieurs strates d'écriture et de réécriture. Le tome 1 qui est ici n'a rien à voir avec mon tout premier jet qui lui remonte à, voilà, c'était en 2007, donc ça nous ramène déjà beaucoup plus loin. Et bah voilà, la passe-miroir est née avec le personnage d'Ophélie, mais c'est un personnage qui n'a pas cessé d'évoluer au fur et à mesure que moi-même j'avançais, puis je retravaillais mon texte. Puis je revenais à chaque fois pour retravailler ce premier tome, puis le deuxième et tout. Et au final, voilà, la version déjà d'Ophélie au début du premier est déjà très très différente de celle de moi, mes propres premiers jets. Et en plus, par contre, je voulais vraiment que ce soit un personnage qui parte avec beaucoup de manques, qui soit très incomplet. Justement, ce qui m'intéressait, c'est de me dire voilà, qu'il faut qu'elle se confronte à la vie et à des difficultés pour pouvoir vraiment grandir.
Elle quitte donc son arche au début des fiancés de l'hiver parce qu'on la marie et elle n'a pas vraiment le choix.
Elle n'a pas le choix.
Et en plus, on la marie à un ours. Et encore, je suis gentil quand je dis ça. Parce qu'en plus, on pourrait même dire un ours mal léché en plus.
Oui, oui. Puis...
un personnage qui n'est absolument pas sympathique, qui est quasiment mutique, qui a l'air d'une grosse brute mal dégrossie.
Alors j'ai beaucoup choqué mon compagnon parce qu'en fait je m'étais inspirée de mon compagnon pour créer ce personnage-là. Et mais il m'avait pas encore lu à ce moment-là. Il m'a dit allez maintenant je vais lire ton livre. Et voilà là, ici.
Vous êtes arrêté là dans sa famille parce que c'est quand même une ode à la belle famille aussi hein, le premier tome.
Chut. Non honnêtement j'ai une belle famille adorable. On va dire que non. Mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, je me dis, j'espère que maintenant sa grand-mère ne va pas me lire, parce qu'elle, elle, c'est une crème, elle est adorable, mais je me dis, si elle me lit, qu'elle maintenant elle s'aperçoit la grand-mère de Thorne, enfin bon, bref. Donc, quand mon compagnon a décidé de lire, il a été extrêmement choqué, il m'a dit, mais il est méchant, tu ne peux pas dire que tu t'es inspiré de moi. J'ai dit, il y a un petit peu encore.
C'est un garçon très timide.
Bah, en fait, il est très... Je pense, oui, il est très intériorisé. Et j'ai toujours, c'est pas très élégant de le dire, mais pour moi, c'est vraiment un constipé des émotions. Quoi. Il a vraiment du mal à s'exprimer à ce niveau-là. Quoi.
Laurent, est-ce que ça vous aurait intéressé peut-être d'aller plus loin, de ne pas rester simplement sur des illustrations des bâtiments et de l'architecture, mais peut-être, pourquoi pas, de donner un peu de vie au personnage de Christelle?
Ben, en fait, c'est pourquoi oui, mais en fait, mais par ailleurs, c'est pas non plus. Enfin, il y a pas d'illustration dans le livre, donc c'est pas évident. Là, sur les couvertures, ils sont partis sur de l'architecture. Donc,
je sais pas si tu te souviens, mais pour le deuxième tome, on était d'abord. Ben, il y avait eu le projet de partir sur des représentations des personnages. Tu avais même commencé à faire des esquisses. Et finalement, moi, j'ai dit que je préférais pas qu'on présente les personnages sur les couvertures.
Oui, voilà.
C'était une toute première version de couverture pour le deuxième tome.
C'est vrai, il y a eu en fait, le deuxième tome, il y a eu pas mal de variantes, mais c'est vrai que c'est, l'idée, en fait, c'est justement d'exprimer. En fait, on exprime les personnages par l'architecture. C'est ça qui est. Il y a un truc qui est fascinant. C'est, par exemple, en fait, on parle toujours du même sujet, mais on va faire un petit excursus. En Chine, dans la pensée traditionnelle, les gens disent que la seule chose qui compte, enfin la chose la plus importante, c'est l'homme. Et pourtant, les peintres chinois lettrés, ils représentent que des montagnes. Donc il y a un truc, voilà. Et pourtant, ils sont pas en train de se contredire. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est fort, c'est que quand on représente des structures ou des paysages ou des choses, quelque part, en fait, on représente toujours l'humain. Mais comme on ne le dit pas, et ben les informations passent d'une façon plus subtile, mais ça passe quand même. Ça passe, ça s'intériorise parce que on se concentre sur les émotions, sur les états d'esprit. Parce que quand on décrit une architecture, comme par exemple tout à l'heure la citadelle, là, vous employez des mots qui sont marqués d'émotivité. Il n'y a pas de fondation, ça vole. Enfin, c'est vulnérabilisant, c'est anxiogène. Ben, ces choses-là ne font que parler d'humain en fait et d'émotions humaines. Donc,
le dehors est le miroir du dedans.
Voilà.
Et puis c'est un peu le ressenti d'Ophélie aussi d'une certaine manière. Toutes les émotions que vous venez de décrire, d'une certaine manière, ça correspond bien au personnage, à son côté déraciné, à son côté anxieux de se retrouver...
Et elle qui ne trouve pas sa place, qui n'arrive pas à trouver ses racines, à s'enraciner dans un endroit. Donc effectivement, ça rejoint bien ça.
On rentre dans cette histoire en ne sachant pas trop au départ où on va aller, et puis... Bah, les intrigues commencent à se nouer, on se pose énormément de questions, On regarde un petit peu les personnages qui sont présents, quel rôle ils peuvent bien avoir. Est-ce qu'on va voir que des grands méchants, des marâtres absolument insupportables, ou est-ce que enfin elle va trouver peut-être un petit peu de réconfort d'acceptation.
Dans cette histoire, la première impression que donnent les personnages n'est jamais la bonne, et parfois la deuxième non plus. Donc c'est vraiment, les apparences sont toujours, toujours, toujours trompeuses.
Avec, là aussi, évidemment, il y a la cellule familiale qui est omniprésente et qui est le noyau de tout cela. Mais il y a aussi cette tante qui accompagne Ophélie.
La tante Roselyne.
Voilà, et qui est sa chaperonne, on va dire ça comme ça. Hein.
C'est sa chaperonne.
Vous devez bien vous amuser à créer des personnages comme ça.
Ah, mais je prends un plaisir extraordinaire. Et en même temps, ils existent par eux-mêmes. Enfin, j'ai pas vraiment l'impression de me dire « Ah tiens, il faut que je crée tel personnage ou tel autre. » Ils viennent d'eux-mêmes et ils existent par eux-mêmes. Vraiment, ça, c'est... J'ai pas vraiment l'impression de faire un travail à ce niveau-là. Et je pense que c'est vraiment Ophélie qui a été donc, le premier personnage qui m'est venu, et tous les personnages qui ont découlé par la suite se sont construits par rapport à Ophélie. Thorne, c'est vraiment le grand contrepoint d'Ophélie. Quoi. Elle est toute petite, il faut qu'il soit très grand... Ouais, je joue beaucoup sur cet effet de contraste entre deux. Bérénilde, c'est un petit peu tout ce qu'Ophélie n'est pas du point de vue féminin. Donc c'est un opposé par rapport à Ophélie. Et s'il manque un petit quelque chose à Ophélie, il y a un personnage qui va exister qui va représenter cette chose qui lui manque, cet aspect-là qu'elle n'a pas.
Avec un équilibre aussi qui se crée au niveau de la dramaturgie d'une certaine manière, parce qu'à la fois, on l'a dit, il y a des intrigues, donc il y a du suspense, donc il y a de l'action. Mais aussi de la comédie, parce qu'il y a des choses très drôles qui se déroulent. Là aussi, c'est quelque chose qui se met, comme vous le disiez tout à l'heure sur le quatrième tome, parfois ça se met, j'imagine, assez facilement en place, et puis d'autres fois, c'est un équilibre qui est un peu plus délicat à trouver.
Alors, pour ce qui est de la tonalité, il y a des moments où je suis vraiment en phase avec tout, puis parfois je me sens pas bien dans l'écriture, et généralement je m'aperçois c'est qu'il me manque parfois la petite touche de dérision justement d'humour, je me dis tiens ça fait un moment que je suis toujours en train de plomber l'ambiance et tout, et puis là il me manque le petit truc qui va faire qui va créer un décalage et qui va faire qu'on prend un petit peu de qui va faire un petit effet comique, et ça je le ressens dans l'écriture. Si j'ai pas cette petite bouffée d'oxygène à un moment donné qui fait qu'Ophélie va se tourner en ridicule alors que la situation s'y prête pas du tout, il faut qu'elle se casse la figure alors qu'il y a tous les yeux qui sont sur elle, il faut qu'elle se retrouve quand elle est sur scène et qu'il lui manque l'accessoire dont elle a besoin. J'aime énormément ces situations qui...
C'est une scène qui m'a beaucoup parlé parce que ça m'a rappelé des choses personnelles. Et
ah bon,
ça m'a beaucoup fait rire. Parce que j'avais l'habitude de jouer au gondolier sur les longs tapis roulants à Châtelet-Léal, pour ceux qui connaissent. Mais sauf que je n'avais évidemment pas de rame à la main. Et ça, cette D'accord, scène-là ouais. m'a un petit peu rappelé ces souvenirs-là. Et les regards parfois qu'on m'a jetés à ce moment-là.
Les moments de solitude.
Oui, mais...
Assumé.
Les gens sont trop tristes. Laurent, il a fallu, j'imagine aussi que... Alors, c'est peut-être pas forcément une nécessité, mais c'est bien, j'imagine, quand l'illustrateur adhère à l'esprit de l'œuvre qu'il illustre. Vous l'avez dit, avant de travailler, vous avez voulu lire, ce qui n'est peut-être le dire pour ceux qui ne connaissent pas trop bien, mais c'est pas forcément une norme le fait que l'illustrateur lise le livre avant.
Ben, c'est une question de temps, et puis c'est aussi une question de... Il y a des problèmes concrets, c'est que les gens sont obligés d'aller vite. Donc ça dépend, si on sent qu'il y a une accroche et que c'est intéressant, on a envie d'en savoir plus. Moi, j'ai lu le livre comme ça, parce que j'avais envie d'en savoir plus. Et d'autre part, j'ai la sensation que si on ne fait pas ça, si on n'a pas beaucoup d'informations quand on illustre un livre, on ne fait pas du bon boulot. En tout cas, moi, je n'y arrive pas, parce que... En fait, les formes correspondent à des idées. C'est un langage. Et, par exemple, pour représenter le fait que le pied soit de la ville volante soit plus étroit que le haut, ça dit tout de suite que c'est un endroit instable et malsain. Si c'était inversé, ce serait beaucoup plus harmonieux. Une pyramide, c'est plus stable, par exemple. Donc voilà, si on ne connaît pas les enjeux, on va faire n'importe quoi, on va peut-être faire un très beau dessin, mais le langage symbolique va être biaisé. Et du coup, ce sera moins pertinent par rapport au sujet. Voilà. Mais après, moi, ce qui m'avait vraiment touché en commençant la lecture des livres, c'est l'idée de lire les objets, l'idée que les objets racontent des histoires, l'idée de mettre de la subjectivité dans le monde matériel. Et ça, il y a beaucoup de civilisation, il y a même des auteurs, hein, des chercheurs qui travaillent là-dessus en ce moment, sur quel rapport, quelle intentionnalité on donne au monde autour de nous. Est-ce que le monde a un statut d'objet ou de sujet? Qui est acteur dans le monde, quoi? Et c'est vrai que cette attitude d'Ophélie, de lire des objets, c'est extrêmement libérateur et ça donne pas mal d'espoir parce que ça ouvre des portes pour interpréter le monde, pour le lire. Ça détend vachement d'un monde un peu étroit où finalement toutes les choses sont cadrées dans les rôles qu'on leur donne et où tout est défini et où finalement on s'ennuie un peu, quoi. C'est ça qui m'avait beaucoup plu.
Cette idée justement de cette lecture des objets qui est très amusante, très originale aussi. Ça a été constitutif dès le départ du personnage ou c'est arrivé en cours d'élaboration ?
Ah, c'est arrivé avec le personnage. C'est les deux pouvoirs, hein, vraiment qu'elle a, le passage des miroirs, hein, c'est, voilà, le fait qu'elle soit une passe-miroir, ça c'est la première chose qui s'est imposée d'elle-même, et très rapidement le fait qu'elle puisse vraiment remonter dans le temps, non, enfin, pas des objets forcément à proprement parler, mais de toutes les personnes qui sont entrées en contact avec ces objets, qui les ont imprégnés d'un état d'esprit. Ça, c'est vraiment quelque chose, effectivement, qui, je pense, c'est un pouvoir que j'aurais vraiment aimé posséder moi-même. Il y avait une époque où j'étais passionnée par le passé ancien, celui qu'on ne connaît pas, qui nous échappe complètement, et j'aurais voulu être capable de pouvoir remonter dans le temps et de voir. Voilà. Donc, je pense que c'est un fantasme personnel là que j'ai attribué à.
Vous aurez remarqué qu'on vous a mis dans le Magic Mirror où il y a quand même le plus de miroirs.
Ah, c'est voulu.
Donc on ne sait jamais, peut-être qu'Ophélie va débarquer d'ici
oui,
la fin de cette table ronde.
Préparons-nous, tout est possible. Tout est possible.
c'est un travail de longue haleine, on imagine, et on le voit encore puisque vous êtes encore dessus. J'imagine, je suis venu vous voir tout à l'heure sous la bulle du livre et vous aviez... une longue file d'attente qui patientait pour obtenir une dédicace. Oui. J'imagine que c'est un encouragement, ça aussi, d'avoir ces retours-là et l'enthousiasme des lecteurs autour de ce cycle.
C'est très, très gratifiant. Alors, je précise que quand j'ai été publiée, et je ne devrais pas le dire, mais à la base, je ne souhaitais pas l'être. C'était quelque chose qui me faisait extrêmement peur de devoir m'exposer, Pour moi, c'était vraiment mon jardin secret. Je ne le partageais qu'à des... amis et un lectorat que je connaissais personnellement et que je maîtrisais bien. Et d'être édité, ça me terrifiait. Et c'est vraiment, bon, là, parce qu'il y a eu une opportunité, c'est Gallimard Jeunesse qui organisait un concours et que ces mêmes amis qui me lisaient m'ont vraiment encouragé à participer. Et que, voilà, tout ça a fait que finalement, je l'ai fait, on va dire, pour la symbolique du geste. J'ai attendu la veille de la clôture pour envoyer mon manuscrit en me disant, de toute manière, ils n'auront jamais le temps de le lire, donc je ne prends pas beaucoup de risques, mais moi, je l'ai fait. Bon, sauf qu'au final, je me suis complètement loupée sur ce coup-là. Et que ça, voilà, Mais ça m'a confrontée finalement à ce qui me faisait peur. C'est vraiment le regard des autres. Et je me souviens que lorsqu'on m'a dit, bon, bah, ce serait peut-être bien maintenant que je commence à faire des dédicaces, j'ai fait non, 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 non. Ils vont me manger. Non, vraiment, j'avais vraiment très, très peur à l'idée de me confronter vraiment au lecteur. Et maintenant, c'est finalement ce que le plus grand plaisir que je prends en déplacement, c'est les rencontres avec les lecteurs.
Alors, bon, on va peut-être profiter, puisqu'on a un petit peu de temps. J'ai quand même regardé la pendule. Oui, c'est bon. On va peut-être faire parler un peu justement vos fans, puisqu'ils sont là, dans la salle.
Est-ce qu'il y a des lecteurs dans la salle ?
Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de poser des questions à Christelle Dabos ? Est-ce qu'on a un micro qui marche, qui traîne, qu'on peut utiliser ? Oui, ça a l'air d'arriver. Est-ce qu'il y a des questions à Christelle, à Laurent ?
Une petite sur, oui.
Pas seulement sur l'architecture, hein, sur... Il y a un micro qui va arriver, je pense. Par ici. Non, non, mais le micro arrive là. Par contre, faut l'allumer. Allez-y, posez-la, je vais faire le relais.
C'est une très bonne question. Donc,
alors, je vais juste la poser pour que, parce qu'il y a la captation. Donc voilà, la question, c'est est-ce que les détails, finalement, des dessins de Laurent peuvent, paradoxalement presque, inspirer l'auteur pour la suite, parce que c'est extrêmement détaillé et donc il y a peut-être des idées à aller piocher à l'intérieur du travail de Laurent pour Christelle.
Alors, c'est vraiment, vraiment une bonne question. Je pense que c'est la première fois qu'on me la pose. Et ça m'est arrivé, effectivement, de venir sur les couvertures pour puiser mon inspiration. Tout récemment, justement, là, je suis dans mon 4e tome. Et il y avait un passage où on repasse devant donc, le monument, là, le mémorial de Babel. Et mon réflexe n'a pas été du tout d'aller relire moi, ce que j'avais écrit à ce sujet. C'était de voir la couverture de Laurent pour redécrire cet espace-là. Et voilà, ça a été mon réflexe, en fait. Je n'ai pas du tout été voir, moi, ce que j'avais écrit à ce sujet. J'ai juste été voir pour me dire, tiens, si je décris ça ainsi, est-ce que ça correspond bien et que ça, c'est bien raccord avec ce que j'ai dit jusqu'à présent. Et je me suis basée là-dessus, finalement.
Quelqu'un d'autre ? Alors, quel est le lieu que vous avez préféré décrire et imaginer dans toute cette saga ?
C'est une très bonne question, parce que généralement, décrire les lieux, c'est d'abord une souffrance pour moi, et puis ça finit progressivement par devenir un plaisir. Mais plus j'arrive à les rendre, à les distordre, à les rendre impossibles et improbables, plus là, je commence à prendre du plaisir. Donc, je pense que chaque lieu, j'ai dû vraiment prendre du temps pour vraiment les apprécier. J'ai aimé passer du temps dans le fameux mémorial de Babel, m'a particulièrement plu parce que c'est une sorte d'énorme bibliothèque et comme moi j'ai la fibre d'un bibliothécaire, c'est quelque chose qui m'habite complètement et je pense que ça sent dans ce que j'écris. Là, je me suis dit, je me suis vraiment fait plaisir avec ce lieu-là. Et surtout que c'est un lieu qui, en fait, ça rejoint un peu ce que disait Laurent par rapport aux villes qui ont des strates, c'est que lui-même, c'est un lieu qui a été reconstruit sur des bases déjà existantes. Et au final, on ne se souvient plus de ce qu'a été vraiment l'origine de ce lieu. Ça fait partie, justement, de l'intrigue de remonter dans l'histoire de ce lieu-là.
Là, on est plus presque dans l'archéologie, plus que dans l'architecture, finalement.
C'est le côté Indiana Jones. Quand j'étais jeune, je voulais être Indiana Jones plus tard.
Très bien. Alors donc, il y a beaucoup d'arches qui sont parfois citées, mais sur lesquelles on ne se rend pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez d'imaginer aussi ? Est-ce que moi j'ai même complété la question. Est-ce qu'il n'y aurait pas l'envie peut-être de faire quelque chose, alors qui ne soit pas du domaine du romanesque là, mais quasiment du domaine du livre illustré finalement, et de nous emmener dans ce monde complet ?
Ouais, je croirais entendre mon éditeur.
Alors, Monsieur Gallimard, si vous nous écoutez.
mon éditeur, ça le fait rêver, ça c'est sûr, hein, il aimerait beaucoup. En fait, chez moi, c'est vraiment l'écriture qui donne existence aux choses. Tant que je n'ai pas écrit sur un lieu, même pour moi, il n'existe pas. Donc, je ne suis pas du tout avoir chez moi une encyclopédie du monde détaillée où j'ai déjà toutes mes fiches et tout. Ça, j'ai peut-être parfois des petits éléments, mais ça reste à cet état-là. Et c'est au moment où j'écris que là, ça y est, ça commence à exister. Que je n'écris pas, ça reste dans un angle mort pour moi. Et pour mon but aussi, c'est de dire les lecteurs, s'ils veulent s'emparer de ça et eux construire là-dessus et prolonger mon imaginaire, vraiment, pour moi, c'est que du bonheur. C'est...
Ce que vous nous décrivez, c'est un univers qui n'est jamais figé, justement.
Non.
Est-ce que le petit paradoxe de l'illustration, c'est que ça fige peut-être un petit peu l'imaginaire ou ça fige un peu certains aspects
Pas celle de Laurent. Mais si on devait rentrer dans un projet graphique comme une bande dessinée, je me pose la question. Moi, ça
ou
me
un fait... atlas, même, carrément.
Oui, une encyclopédie du monde et tout. C'est sûr que ça lui donnerait un côté beaucoup plus concret, du coup. Moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer ce que ça pourrait donner. Et en même temps, il y a une part de moi que ça fait rêver. Je me dis, surtout un projet de bande dessinée, moi, c'est un truc qui me... Voilà, ça... voire de films d'animation, donc s'il y a un Ghibli dans la salle.
On va lancer des
pistes. Honnêtement, c'est vrai que voilà, moi-même, quand j'imagine, j'étais très influencée par les films d'animation de Miyazaki, dont les décors sont extrêmement changeants, fluctuants, et ça foisonne de détails. Et où, pareil, dans son univers, les apparences sont toujours trompeuses et toujours bougeantes. Et ça m'a beaucoup influencée dans ma propre écriture. Je me suis dit, j'aimerais tellement retranscrire en mots ce que lui, il fait en images. Et je me dis, ben voilà, s'il y a des images qui pourraient vraiment être fidèles, il faudrait que ce soit des images finalement qui soient ainsi, animées, changeantes, sans cesse.
Et c'est vrai, encore une fois, on en revient aux illusions et aux trompe-l'œil. Hein. C'est vrai que ça donnerait effectivement quelque chose qui serait assez fascinant et assez, assez troublant de le voir, de ne plus seulement l'imaginer, mais de l'avoir sous les yeux.
Ah, ça...
Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre ?
Oui ?
Alors, vous disiez tout à l'heure que créer, c'était une souffrance, en particulier pour justement ces décors et ces bâtiments. Comment est-ce que vous commencez et comment est-ce que bah voilà, ça se travaille ? Est-ce que ça se travaille aussi par strates, finalement, comme on disait tout à l'heure ?
Exactement, par strates.
Étage par étage.
Étage par étage. Mais c'est vrai que je pense qu'en fait, ça vient du fait qu'à la base, à mes tout débuts, quand j'écrivais, j'adorais écrire des dialogues, des actions, mais je détestais les descriptions. D'ailleurs, je n'en faisais pour ainsi dire pas. Je n'aimais pas décrire. Enfin, les personnages, ça allait, mais les lieux, voilà, je ne les décrivais jamais. Et c'est un aspect de l'écriture que j'ai dû un petit peu travailler parce que je sentais que ça me manquait. C'est quelque chose, une technique que je n'avais pas du tout acquise.
Sur un univers aussi particulier, ça.
Et j'ai dû apprendre d'écrire des lieux. Et sur qu'est-ce qui fait qu'un lieu va me servir de départ ? Bah, généralement, je pars sur une image. Donc, parfois, je vais aller voir sur Internet, dire bon, bah, je tape des mots-clés et je regarde, je dis ah, tiens, ça, ce lieu-là, il dégage une ambiance qui me plaît bien, mais c'est incomplet. Donc, après, j'ouvre un nouvel onglet, je fais une nouvelle recherche dans quelque chose de complètement différent, parce qu'il faut vraiment que ce soit, je m'inspire de lieux, mais qui vont après s'imbriquer les uns dans les autres et qui vont créer un nouvel espace à part entière.
Je vais poser la même question à Laurent, parce que pour l'illustrateur aussi, la question se pose finalement par quel côté on attaque le dessin de ce genre de bâtiment, de décor. Est-ce qu'on a déjà une idée globale en tête ou est-ce que finalement ça se construit petit à petit ?
Il y a plusieurs façons de procéder. Ça dépend un peu des cas, mais il y a la rencontre entre une idée exprimée, une émotion exprimée et la logique interne d'un lieu. C'est-à-dire que moi, je passe mon temps à observer les lieux, les paysages, je les ressens presque corporellement en fait. Et une montagne par exemple, ça peut me tirailler un bout du corps ou un truc comme ça. Quand je la vois, ça, c'est des sensations, c'est physique en fait, c'est charnel. Et donc il y a cet acquis là, c'est-à-dire qu'un lieu, il a une cohérence interne. Si une rivière coule dans une vallée, ça va avoir le fleuve va creuser les versants d'une façon bien spécifique. En fonction de l'angle où il arrive, enfin voilà, il y a des cohérences internes au lieu. Et puis après, ils servent à quelque chose dans une histoire. Si c'est l'endroit où quelqu'un va se faire tuer, ou au contraire, s'il y a une histoire d'amour, ou j'en sais rien, c'est pas du tout le même genre de forme qui amplifie, qui accompagne ces événements. Les formes, on véhicule des idées très puissantes, et du coup, ben, il faut coller les deux, faire se rencontrer ces deux choses-là. Et à force, avec le temps, bah, c'est devenu une espèce d'alchimie interne que moi, je gère un peu avec mes boyaux et un peu avec ma raison, quoi, en passant de l'un à l'autre. Quoi.
Sur le mémorial de Babel, c'est un nom qui inspire et qui a inspiré beaucoup de peintres, d'artistes. Vous avez essayé justement de vous abstraire de ça ou est-ce que quand même vous avez été regardé un peu
Pas vraiment. Alors le mémorial de Babel, la façon dont moi je l'ai conçu, c'est un mélange. Il y a du romain. Enfin, bon, déjà c'est une espèce de structure scalaire et puis un petit peu à base de modules répétitifs. Donc c'est comme les éléments d'un savoir ou un ADN, quoi, mettons. Et puis au niveau des styles, dans la description de l'arche qui l'accompagne, il y a des références à l'Inde qui m'ont paru assez fortes. Il y a une forme de classicisme aussi. Alors, il y a des références, beaucoup. En fait, c'est une sorte de tour de Babel de Bruegel avec un temple hindou mélangé avec des éléments romains, quoi. Enfin, voilà. Le tout sérieusement bousillé et puis un peu croulant, quoi. Donc, ça fait. Voilà.
Vous n'avez pas honte, Christelle, d'imaginer des choses pareilles, en plus de demander après qu'il y ait des illustrations, quand même.
J'assume.
Autre question ? Bah, écoutez, on va vous demander peut-être est-ce qu'on peut avoir en exclusivité une petite idée de d'où on sera sur le quatrième tome ? C'est trop tôt pour en parler ?
Si je vous en parle, il faudrait foutre tu après.
Ça va vous faire beaucoup de monde à tuer, là, quand même.
Il y a beaucoup de témoins que je devrais tuer après.
Merci beaucoup, Christelle. Merci beaucoup, Laurent. Voilà, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de vous recommander... Pour les gens qui vont écouter la captation, vous aurez remarqué que je ne vous ai pas menti. Le Magic Mirror est vraiment plein. Et nous n'avons payé personne. Merci en tout cas vraiment d'être venu écouter Christelle. Un grand merci à Christelle parce que je le redis, on était ravis vraiment cette édition de vous accueillir. On a trop tardé même à vous proposer de venir.
Un grand merci à vous.
Et voilà, ça, je crois que le public a été aussi content de vous voir et de vous rencontrer. Je vais vous libérer parce que je sais qu'ils vont encore vous attendre là-bas sous la bulle et qu'il y a encore un gros travail qui vous attend. Bon. Et merci à Laurent également d'avoir joué le jeu et d'être venu partager son expérience d'illustrateur dans cette table ronde. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis, retour sous la bulle. Faites gaffe, il fait chaud quand même.